franceinter.fr.
Le monde du microprocesseur va en finir avec la loi de Moore. L'annonce vient des plus grands industriels du domaine du circuit imprimé. Cette loi Moore, une loi de croissance qui a porté l'innovation électronique et informatique depuis les années 70, va être sans doute abandonnée. Pour comprendre la science qui se cache derrière cette annonce, nous sommes avec Gérard Berry. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, à la tête de la chaire informatique et sciences numériques, médaille d'or du CNRS en 2014. Gérard Berry, cette fameuse loi de Moore, le grand public, alors, la connaît pas forcément et pourtant elle est extrêmement importante dans l'histoire de la recherche en informatique. Comment peut-on l'expliquer en quelques mots?
Alors, la loi de Moore exprime que la taille des composants électroniques sur un circuit va être divisée par deux tous les 2 ans à peu près. Ça veut dire une exponentielle. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, c'est divisé par 1000. C'est ça qui s'est passé.
Donc un monde de plus en plus petit, c'est ça?
Un monde de plus en plus petit, ce qui fait qu'il consomme moins d'électricité, il est plus rapide, jusqu'à un certain point. Alors la loi de Moore, c'est pas une loi de la physique, c'est une décision de l'industrie. L'industrie s'est organisée pour que tout le monde fasse pareil au même moment, à peu près.
C'est Monsieur Moore, d'ailleurs, qui est à l'origine.
C'est Monsieur Moore. Alors, au début, c'était une observation, au tout début. Quand Monsieur Moore, le créateur d'Intel, là, qui faisait les premiers circuits, s'était aperçu qu'on arrivait à faire ça, il a dit, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ça a été ce qu'on appelle une roadmap, c'est-à-dire une direction prise par l'industrie de façon consciente et coordonnée. C'est pas une loi de la physique.
Ouais.
Alors on a entendu très souvent qu'elle allait s'arrêter à cause de la physique. Moi j'ai entendu ça pendant 25 ans. Alors ce n'est pas vrai. C'est pas la physique qui va arrêter. Enfin, la physique est de plus en plus dure quand on rétrécit, mais elle est encore faisable.
On peut aller en divisant les choses par deux, alors.
Jusqu'à un certain point, mais parce que ça finit par être vraiment au niveau de l'atome, c'est un peu gênant. Mais on est à des niveaux très très bas à l'heure actuelle. On est dans des 15 nanomètres de taille. On va descendre plus bas, probablement à 10, probablement à 4. Mais plus on descend bas, plus c'est difficile à fabriquer, plus l'industrie est horriblement chère. C'est-à-dire que c'est l'industrie la plus chère du monde. Les usines de circuits sont les plus chères du monde. C'est beaucoup plus cher qu'une centrale nucléaire. La dernière usine de Samsung, c'est 14 milliards de dollars.
Oh.
Et donc, les gens... amortir, il faut produire des milliards de circuits. Il faut savoir qu'il y a 1 milliard de circuits de téléphone qui sortent, par exemple, par an. Donc, c'est une industrie extrêmement capitalistique. De plus, la conception des circuits est un énorme problème. On a à l'heure actuelle, mettons, suivant les circuits, entre 2 pour un téléphone et 10 milliards de transistors dans le circuit.
Qu'on appelle les transistors dans un circuit?
Un transistor, c'est le petit élément qui va faire zéro, oui ou non sur les...
C'est pas ce qui nous permet d'écouter France Inter, on est d'accord.
Ah non, c'est pas la même chose. Enfin, c'est les mêmes transistors, mais ils marchent pas pareil. On les fait travailler en oui-non, comme des vannes. Ouvert ou fermé.
Donc, aller toujours plus loin maintenant dans la puissance, c'est plus rentable, c'est ce que vous êtes en train
de dire.
Aller
plus loin dans la puissance, ça devient de plus en plus difficile. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, les circuits sont conçus par des logiciels entièrement, et ces logiciels deviennent de plus en plus difficiles parce que les effets physiques deviennent compliqués. La fabrication, faut comprendre qu'à l'heure actuelle, quand on rate quelques transistors dans un circuit, on le jette. Donc quand il y en a 8 milliards, c'est pas terrible. Et donc le rendement de fabrication devient faible, le coût des usines devient énorme, le design devient énorme, et donc on s'oriente vers d'autres méthodes.
Pour vous, c'est une bonne chose, ce changement de cap?
C'est une bonne chose, c'est-à-dire que la raison, ça a commencé, les ennuis ont commencé dans les années 2000, avec le fait qu'on pouvait plus accélérer les circuits parce qu'ils chauffaient trop. Si on double la vitesse d'un circuit, on multiplie son chauffage par 4. Et à l'heure actuelle, on ferait fondre le métal, donc c'est pas bon.
Gérard Berry, juste pour se rendre compte, c'est l'importance de cette loi de Moore, justement, quelles avancées est-ce qu'elle a permis dans l'histoire des technologies, tout simplement?
On est passé de quelques dizaines de transistors par puce à quelques milliards de transistors par puce, ça s'est pas vu souvent. Elle a permis successivement les mini-ordinateurs, les premiers qui étaient abordables, ensuite les micro-ordinateurs, ceux qu'ont tout le monde, maintenant les téléphones, et puis aussi tous les capteurs qui sont absolument partout, les puces qui vont être dans le corps humain, les pacemakers modernes, les voitures électroniques des voitures. Le téléphone est la chose la plus distribuée. Donc c'était impossible de faire ça sans cette loi.
Comment faire des ordinateurs encore plus performants alors maintenant?
On travaille sur beaucoup de choses. D'abord, d'autres technologies. L'abandon par l'industrie, pas par la nature. De la loi de Moore est un bonus formidable pour les chercheurs qui cherchent d'autres méthodes. Par exemple, les chercheurs du graphène, etc. Alors, ça va être long, parce que, disons, la loi de Moore a presque annulé la recherche dans le domaine, parce que ça allait tellement vite, la loi de Moore, qu'essayer de la battre, c'était pas possible. Et ben, maintenant, ça va redevenir possible.
Oui. À partir de quand, d'ailleurs? Quelle est la date annoncée, au fond, pour le basculement?
2020, je pense.
2020?
C'est vers enfin, c'est la décision d'arrêter maintenant, mais ça veut dire que chacun va aller en disperser. Ça veut pas du tout dire que les programmes vont pas continuer, hein. Ça veut dire que maintenant, ils vont plus être coordonnés dans les industries. Il y en a qui n'auront plus intérêt à progresser. Par exemple, pour les capteurs, on n'a pas du tout besoin d'avoir des choses hyper sophistiquées. Pour les grands serveurs du cloud computing, il faudra. Donc, je pense qu'Intel va continuer la loi de Moore de son côté. Et puis, pour le téléphone, ben, c'est la pile. C'est pas bouffer la pile, le seul problème. Tout le monde le sait bien. Et donc, on va prendre d'autres orientations. En fait, il y a de plus en plus de sortes de circuits différents, ce qui n'était pas vrai avant.
Mmh. On entend beaucoup, beaucoup parler de l'ordinateur quantique. C'est lui l'avenir également?
Bah, l'ordinateur quantique, d'abord, c'est un sujet de recherche. Hein. Oui. Il y a une seule machine quantique qui n'est pas un ordinateur, qui est D-Wave, qui a des résultats tout à fait intéressants, mais ce n'est pas un ordinateur. Un ordinateur fait marcher n'importe quel programme, et D-Wave fait marcher un programme particulier intéressant. L'ordinateur quantique, s'il existe un jour, ce qui n'est pas garanti encore, permettra des ennuis, c'est-à-dire de casser des codes secrets sur Internet qui sont là pour l'instant, mais on sait aussi faire des codes secrets qui ne seront pas cassés. C'est un sujet formidable, mais ce n'est pas ça qui va améliorer le traitement des informations bancaires ou la transmission des données sur Internet. Donc il ne faut pas l'exagérer, mais c'est un sujet formidable. Mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres technologies plus classiques, mais qui permettent de faire des transistors à pratiquement aucun, enfin un atome, avec des nanotubes de carbone, avec des tas de matériaux nouveaux. Elles sont très loin de l'industrialisation, mais elles arriveront forcément. Et maintenant, ça encourage les chercheurs à faire travailler encore plus là-dessus.
Donc une aubaine pour la recherche, la fin de la loi de Moore.
Une certaine aubaine pour la recherche et aussi pour la recherche en informatique, parce qu'il va falloir faire des meilleurs logiciels maintenant. D'ailleurs, les circuits, comme ils étaient très gros, devenaient très compliqués. Et quand vous avez, par exemple, 8 ou 18 microprocesseurs dans un seul circuit, c'est très difficile à utiliser.
Ouais. Et une aubaine aussi pour l'environnement ou pas?
Alors pour l'environnement, ben peut-être parce que les circuits c'est pas du tout une industrie anodine. D'abord ça consomme énormément d'électricité, donc diviser la puissance ça fait très longtemps que c'est l'objectif, ça progresse. Et puis il y a quand même un problème de pollution sérieux sur les métaux lourds. Alors ça c'était intéressant de faire des circuits plus petits, hein, parce que les circuits plus petits ont moins d'éléments dangereux. Ouais. Et on ne sait pas recycler ces bestioles.
Hein. Ouais. Mais quelle journée, hein, l'abandon de la loi de Moore pour 2020, la détection des ondes gravitationnelles, mais ce 11 février est absolument incroyable. Merci à notre super professeur d'informatique Gérard Berry. On vous retrouve quand d'ailleurs au Collège de France, Gérard Berry? Il y a des cours à venir?
Je commence début mars,
ah ben voilà.
Un cours sur la vérification automatique des programmes.
Bon, on peut l'annoncer et on peut les suivre aussi sur Internet.
Hein. Absolument, sur Internet ou sur place.
Merci beaucoup d'être venu dans la tête au carré, merci Axel.
À demain, la grande messe des ondes gravitationnelles.
Ouais, demain, émission spéciale, on va tout faire péter nous aussi. Pour parler des ondes gravitationnelles, une heure entière consacrée avec un sacré plateau de physiciens, vous le verrez.
À demain.
Et l'annonce est à 16h30 cet après-midi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les enfants bilingues sont meilleurs pour résoudre des problèmes grâce à leur flexibilité mentale. Une équipe canadienne a étudié le comportement de 82 enfants âgés de 2 ans pendant 7 mois. Résultat, les jeunes polyglottes font preuve d'une aisance significative lorsqu'il s'agit de classer des fruits selon leur taille dans des seaux. C'est ce qu'on leur a demandé. Cette facilité serait due à l'inhibition sémantique dont ils font preuve pour sélectionner le langage dans lequel ils veulent s'exprimer en sélectionnant les bons critères afin de mieux résoudre les problèmes. C'est bien connu, les chiens ont un sacré flair et ce qui est plus curieux, c'est qu'on peut maintenant l'améliorer. Les chercheurs du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon ont entraîné 13 bergers allemands et belges et chiens malinois à reconnaître des odeurs humaines. Après 2 années d'exercice seulement, les chiens sont parvenus à flairer le bon suspect dans 85% des cas. Cette science du sentir, l'odorologie, est utilisée depuis 2003 par la police judiciaire pour retrouver justement des criminels. Et puis un coup de chapeau à Aurélien Banco qui analyse l'ADN plus vite que son ombre. Ce chercheur toulousain vient tout juste d'être primé par la Société Chimique de France pour avoir dépisté une séquence d'ADN en 10 petites minutes alors que la procédure prenait jusqu'alors pas moins de 3 heures. Sa botte secrète consiste à appliquer un champ électrique à l'ADN disposé sur une petite puce semblable à celle d'un ordinateur justement. En plus d'être plus rapide, cette nouvelle technique d'analyse nécessite 1000 fois moins d'ADN que les techniques actuelles. Bonne nouvelle donc pour la banalisation du dépistage du cancer par exemple ou des analyses criminologiques.